Hervé Gattegno, bonjour.
Bonjour.
C'est la revue de presse. Dans les journaux ce matin, le bras de fer qui recommence entre le gouvernement et le monde agricole à deux jours du Salon de l'Agriculture.
Oui, la crise n'est pas terminée. En tournant les pages des journaux, Gabriel Attal constatera que cette page n'est pas tournée. Si l'objectif du Premier ministre était d'apaiser les tensions avant le Salon de l'Agriculture, comme l'annonce Ouest-France, ce n'est pas complètement réussi. La dépêche du Midi évoque Attal le démineur, les Échos parlent d'une opération déminage et le Figaro titre l'exécutif démine, la tension demeure. Si l'on parle tant de déminage, c'est donc que la bombe peut encore exploser. De fait, malgré l'annonce d'une nouvelle loi Egalim, les agriculteurs restent sur leur faim, dit le courrier Picard. Et le Parisien prévient, lui, qu'au Salon de l'Agriculture, samedi, Macron sera attendu de pied ferme.
Comme souvent, les annonces du Premier ministre font à la fois des satisfaits et des mécontents.
Oui, c'est comme si au « en même temps gouvernemental » répondait à un « jamais content national ». Libération reproche à Gabriel Attal d'avoir donné de nouveaux gages à la FNSEA, le puissant syndicat agricole, perpétuant ainsi un système de cogestion inadapté face aux défis écologiques, écrit le journal. Le quotidien L'Opinion, lui, constate que Attal court toujours derrière les agriculteurs et fait tout pour les satisfaire en agissant vite, mais son éditorialiste Nicolas Bétou déplore cette politique en mode défensif où on ne tient pas une ligne, on lâche du lest, on ne mobilise pas l'opinion, on gère les exaspérations. Et Nicolas Bétou ajoute, dans un monde apaisé et un pays sans histoire, gouverner ainsi pourrait assurer la tranquillité. Ce n'est pas le cas en France.
Y a-t-il un lien avec ce qui précède ? Un article du site Slate.fr est censé nous apprendre à reconnaître les menteurs.
Un groupe de chercheurs de l'université de Göteborg en Suède a examiné tous les travaux d'experts publiés depuis 5 ans sur la détection des mensonges dans le but d'en isoler les constantes. Il en ressort qu'un menteur n'évite pas plus de croiser votre regard ni ne se montre plus nerveux qu'un autre. Ce qui compte, c'est ce qu'il dit. Car dans 72% des cas, le menteur est celui qui peine à fournir des détails. Quand on lui demande des précisions, son discours devient alambiqué, voire incohérent. La bonne technique pour le confondre est donc de lui dévoiler des preuves au compte-gouttes. Vous savez, comme le lieutenant Colombo dans la fameuse série télé. Plus il change son récit au fur et à mesure, moins le menteur est crédible. Slate signale qu'une analyse des tweets de Donald Trump a permis de distinguer le faux du vrai dans 74% des cas. Cet exemple, conclut Slate, prouve qu'il ne suffit pas de griller un menteur pour l'empêcher de récidiver.
En voilà qui ont certainement beaucoup menti. Le Point consacre sa couverture à ces Français, aux services de Moscou, des hauts fonctionnaires, des politiques et même des journalistes qui auraient espionné pour le compte de la Russie.
Les archives du KGB n'ont pas fini de parler. Elles révèlent les relations ambiguës, euphémise Le Point, entretenues durant la guerre froide entre le pouvoir russe et des journalistes français, parfois très connus. Selon le livre de Vincent Jauvert, les fichiers d'un ancien maître espion soviétiques contiennent les noms d'un ancien chroniqueur diplomatique de Radio France, d'un ancien rédacteur en chef du Canard Enchaîné, et même celui de l'éditorialiste d'Europe 1 puis de TF1 Gérard Carrérou. Réaction indignée de l'intéressé. C'est du roman, du John le Carrérou.
Excellent.
Excellent, en effet. Et très bonne défense. Il annonce également une plainte devant la justice. Le Point révèle aussi que, sous Poutine, l'espionnage continue. Un agitateur lié au service russe aurait même donné des cours dans une école de journalisme parisienne pour apprendre quoi ? Pour apprendre à distinguer les fake news. On aimerait presque que c'en soit une.
Alexei Navalny, lui, n'avait pas de relation équivoque avec le Kremlin. Le magazine L'Obs publie des extraits de son journal de détention, ses derniers écrits avant de mourir.
Textes publiés sur Instagram grâce aux avocats de Navalny, on les trouve en français sur le site Desk Russie. Il raconte avec humour et optimisme les derniers combats de l'opposant disparu, résume L'Obs. Le 20 février 2021, à la prison de Pokrov, Navalny écrit « Je ne pouvais pas imaginer qu'il soit possible de créer un véritable camp de concentration à 100 km de Moscou. Le 22 février 2022, se battre pour la Russie et la sauver, c'est se battre pour écarter Poutine et ses kleptocrates, du pouvoir. Le 12 janvier 2023, tout ce que vous lisez sur les horreurs et les crimes de notre système carcéral est vrai. À une rectification près, la réalité est encore pire. Et le 17 janvier dernier, dans son enfer sibérien, j'ai tenu ma promesse. Il faut bien qu'enfin en Russie, des gens ne mentent pas. Aujourd'hui, je dois payer pour mon droit de ne pas cacher mes convictions. Navalny, en effet, ne mentait pas.
On termine avec le mensuel Historia qui paraît dans une nouvelle formule sous la direction de l'ami Franck Ferrand et qui publie un long dossier sur l'histoire de la langue française.
C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents, où l'on sent la musique et le parfum des airs.
Oui, le français, c'est mieux qu'une chanson d'Yves Duteil. Élégante, poétique et grammaticalement complexe, notre belle langue est le fruit d'une épopée. 1200 ans de métamorphose, écrit Historia. On apprend dans ce dossier que le français d'aujourd'hui compte environ 170 mots d'origine gauloise, le plus souvent liés à la nature, comme les mots chêne ou boulot. Je parle des arbres, hein, pas du travail. Le gaulois a été supplanté par le latin parce que c'était la langue du commerce. Les francs, eux, parlaient le francique, qui était d'essence germanique. Le parler gallo-romain s'est mué en proto-français, puis en langue romane. C'est pourquoi on appelle romans les premiers textes écrits dans cette langue au XIIe siècle. Toute l'Europe et les élites parlaient le français au XVIIIe siècle. C'était la langue des diplomates, des traités, des savants. C'est la Révolution, puis Napoléon, qui, en terrorisant le reste de l'Europe, ont mis un terme au règne du français. De ce beau dossier, on retient que le français est une langue mélangée, évolutive, bigarrée et toujours rayonnante. D'ici 50 ans, 85% des locuteurs de la langue française devraient se trouver en Afrique. Cela mérite d'être dit et d'être su.
En espérant que l'Afrique ne se mette pas trop aux Russes et aux Chinois. Hervé Gattegnaud, merci infiniment. À demain. Dans un instant, l'événement du jeudi. Il s'appelle Franz-Olivier Gisbert sur Radio Classique.